Ah, je vous redis bonjour à tous. C'est bien qu'il y ait les vacances. Il y a 80% des gens de l'église aujourd'hui sont des visiteurs. Je renouvelle en tout cas cette bienvenue. Merci de passer ce temps ensemble pour louer notre Dieu, pour l'adorer. Et c'est une joie de pouvoir avoir des gens qui viennent d'Amérique du Sud, d'Allemagne, des Pays-Bas, même d'Annemasse, du Maroc. On peut tous se retrouver effectivement sur l'invitation du Seigneur à venir autour de lui, et j'espère que c'est une joie pour chacun. Si Pedro, tu mets la première slide. Se souvenir du passé, ne plus emporter la culpabilité. À l'étude biblique, une de ces dernières semaines, est sortie lors des discussions cette phrase, un peu slogan qui résume bien, j'espère, je trouve. Une des choses que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants, par le pardon, la régénération, la guérison, dont lui seul est capable. En d'autres termes, je crois pouvoir dire que Dieu ne veut notamment pas que nous traînions des boulets, ou que nous portions des fardeaux de culpabilité inutilement, ce que nous faisons pourtant peut-être trop souvent encore, alors que Dieu veut et alors que Dieu peut nous en décharger, nous en débarrasser. C'est donc sur cette thématique que je nous propose de réfléchir un peu ce matin, et c'est sur laquelle j'espère nous encourager un peu également. Comme je ne vous connais pas, pour la plupart d'entre vous, je ne sais pas quel est effectivement votre vécu, votre actualité, mais j'espère que on peut voir dans le Seigneur celui qui nous décharge de toutes choses. En préparant cette prédication, j'ai vu combien le sujet est vaste et pas si simple en fait, car chaque personne est particulière et donc chaque vécu est particulier, même si on cherche quelque peu à systématiser, ce qui implique aussi souvent de schématiser. Il peut y avoir pas mal de cas de figure selon que cela concerne des choses du passé avant notre conversion ou après, des choses dont nous avons pu être victimes, que nous avons subies ou au contraire des choses que nous avons commises et dont nous sommes effectivement coupables, des choses légalement répréhensibles ou seulement, entre guillemets, pour le mot seulement, un péché aux yeux de Dieu. Il peut en effet y avoir des choses que la société accepte, aujourd'hui ou à toute autre époque aussi, qui ne le sont pas pour Dieu. Des choses avec des conséquences pour les autres, ou pas. Ou en tout cas, croit-on pas. Vaste sujet, alors je ne sais pas trop par quel bout commencer, quels aspects aborder. Peut-être que Dieu aurait dû me mettre à cœur autre chose. Ça ne fait pas un sujet très estival, très joyeux nécessairement, mais c'est quand même ce à quoi Dieu veut nous amener, en nous enlevant toute culpabilité, c'est de nous amener à sa joie, à la joie de le connaître. Je n'ai en tout cas pas toutes les réponses, et même des fois j'ai que les questions, d'autant plus que je ne maîtrise pas tous les processus psychologiques de l'être humain, et que j'ai encore beaucoup à apprendre, même de la logique divine. Mais j'espère quelques pistes de réflexion. Et nous voulons en tout cas rester pleinement dépendants et à l'écoute du Seigneur. Et ce matin, je propose donc de considérer un exemple biblique particulier qui nous concerne tous dans notre dimension de pécheurs, en particulier avant notre conversion, mais après aussi, on le sait. On peut avoir des fois des problèmes de culpabilité qui reviennent. Et on va considérer l'exemple de l'apôtre Paul et lire le début du chapitre 15 de la lettre aux chrétiens de la ville de Corinthe. Chapitre plutôt connu pour parler du sujet important de la résurrection, mais on focalisera donc sur autre chose ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 15, je lis les 12 premiers versets. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est l'apôtre Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à celui qui suis venu après coup. Voilà donc les versets centraux de notre thématique, versets 9 et 10. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Le grand apôtre Paul, plutôt comme il le dit lui-même, le petit apôtre Paul, car il reconnaît ne pas mériter l'honneur d'un tel titre. Lui, qui a persécuté l'Église de Dieu, comme le relate en détail le livre des Actes des apôtres notamment, il suffit de relire les chapitres 7, 8, 9 de ce livre, et on parle de choses terribles. Il a donné son accord pour le meurtre d'Étienne, a probablement participé au meurtre d'autres chrétiens, en tout cas à leur poursuite, leur arrestation, leur emprisonnement, leur persécution, au seul motif que ces gens croyaient en Jésus-Christ. Mais ne nous dissocions pas trop vite de ce sale persécuteur. On le sait, aux yeux de Dieu, voler un carambar, je ne fais pas de pub, est un péché aussi grave. Dire imbécile à son frère est aussi grave que de le tuer. Paul a-t-il eu des regrets par rapport au mal qu'il a pu faire? Mieux encore, Paul a-t-il eu des remords par rapport au mal qu'il a pu faire? La Bible n'est pas un livre de psychologie et, assez globalement parlant, je trouve qu'elle expose assez peu les états d'âme et le ressenti des personnes. Il y a certes des exemples, hein, on en voit dans les psaumes, ou concernant Élie, ou encore Jésus lui-même, et d'autres aussi, mais la plupart du temps, je trouve qu'elle reste assez laconique sur le sujet. Il faudrait donc trop lire entre les lignes pour affirmer savoir ce qu'il en était pour Paul. Ressentait-il de la honte chaque fois qu'il se souvenait de son passé? Ressentait-il de la culpabilité? Dans un bon nombre de passages, soit des discours, soit des lettres de Paul, il a fréquemment, et apparemment sans difficulté, et même avec objectivité, mentionné son passé, bien que peu glorieux. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, et un persécuteur, et un homme violent, écrira-t-il sans dissimulation. Certains commentateurs utilisent pour lui des mots assez forts pour dire qu'il avait sans doute du mépris contre lui-même, contre son passé en tout cas, qu'il devait être pour lui un terrible souvenir, une cause d'humiliation et de tristesse. On ne sait pas, mais clairement, il ne devait pas être fier de son passé. Il ne pouvait pas être fier de son passé. Mais je crois qu'il pouvait l'affronter. Et je crois même qu'il pouvait en parler sans plus de culpabilité. Sans plus de culpabilité dans le sens où il avait su et il avait pu pleinement saisir la grâce et le pardon de Dieu qui ôte la culpabilité. Et c'est pour cela que j'ai à dessein lu les versets de contexte de nos versets 9 et 10. Car l'expérience de Paul doit se comprendre à la lumière de ce qu'il souligne, en particulier au verset 3. Christ est mort pour nos péchés. Voilà bien tout le message de la foi chrétienne et de la Bible. Christ est mort pour nos péchés. Lui avait bien saisi cela, lui qui avait tellement besoin de cela. Il l'a pleinement saisi. De la culpabilité, Paul en a eu, c'est certain. Il s'est quand même pris un bon coup sur la tête, si je peux dire ça comme ça, par l'apparition et la confrontation de Jésus-Christ qu'il a expérimenté lorsqu'il était en chemin vers Damas, si vous connaissez le passage. Et c'était bien fait pour lui. Il lui en fallait bel et bien de la culpabilité, dans le sens où c'était une excellente chose pour lui, une chose nécessaire. Une chose salutaire. Paul a bien eu les regrets et remords, la culpabilité et la repentance indispensables et préalables au changement opéré par Dieu dans sa vie. Dieu le demande de nous. Quand il écrit à la fin du livre des Actes, quand le livre des Actes plutôt relate un discours de Paul, il dira « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Et on le sait, Paul n'était pas du genre à prêcher aux autres ce qu'il ne vivait pas lui-même. C'est là où des fois je me dis « Oula, je vais éteindre le micro ». Paul n'était pas du genre à prêcher aux autres ce qu'il ne vivait pas lui-même. Et ainsi, s'il a prêché aux autres, alors il l'a vécu lui-même. Au-delà de la culpabilité préalable nécessaire à la conversion, oui, Paul a expérimenté la repentance. Mais au-delà de ça, a-t-il aussi expérimenté par la suite de la culpabilité comme des résurgences à certains moments de sa vie chrétienne? Peut-être, on ne sait pas, rien n'est moins sûr. Il est vrai cependant que Satan, notre ennemi, l'accusateur de nos âmes, veut souvent nous faire porter, ou porter à nouveau une culpabilité qui n'a pourtant plus lieu d'être. Ouais, t'es sûr que Dieu t'a vraiment pardonné, toi? Non, mais là, ça fait 50 fois que tu fais la même faute. Là, c'est sûr, Dieu, il en a marre. Quelques versets d'un psaume que Paul a repris dans l'Épître aux Romains, mais je le lis le psaume lui-même, psaume 32. Heureux l'homme, l'être humain, homme ou femme, dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché. Si on arrête ici la lecture du psaume, on pourrait trouver cela trop facile. Mais on le sait, ce bonheur n'est pas juste parce que Dieu est bon et qu'il passe l'éponge. Le psaume poursuit « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main, donc la main de Dieu, pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. » Obligation de repentance, obligation d'aveu. Qu'on ne soit pas encore chrétien ou que l'on le soit déjà, et même de longue date. Si on cache une de nos fautes devant Dieu, si on croit pouvoir lui cacher, ne pas lui avouer et vivre avec, de façon dissimulée, on a tout faux. Car car le problème n'est évidemment pas réglé, on le sait. Par contre, l'aveu, la repentance permettent le pardon. Et le pardon pleinement saisi permet d'enlever la culpabilité. Cela permet d'être en paix, de vraiment régler le problème. Et le roi David qui a écrit ce psaume en savait aussi personnellement quelque chose, hein. Lui qui a été également meurtrier, adultère en plus. Dieu change la vie de personnes des fois bien peu recommandables. Mais quand on considère le cas de Paul, on a toutes les langues qui défilent, hein. Aussi grave qu'aient pu être ses actes, on peut peut-être quand même lui donner quelques circonstances atténuantes, non ? Il croyait bien faire. Il croyait servir Dieu même. Il était sincère. La sincérité. Elle est souvent mentionnée par rapport à ce que peuvent faire certaines personnes. Pourtant, il est clair que l'on peut, sincèrement, être complètement dans l'erreur. Sincèrement dans le mal. Et c'est même fréquemment le cas si ce n'est pas Christ qui nous guide. Des fois, quand on considère notre propre cas, ouais, on voudrait bien quelques circonstances atténuantes. S'attribuer quelques circonstances atténuantes. Mais même si c'est dur, je dis non, moi, parce que je crois qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Aucune. Je suis peut-être un peu intégriste hein, quand je dis ça, mais vous avez le droit d'être en désaccord. Je crois que ce concept n'existe pas vraiment devant Dieu. Notre responsabilité ne peut être ni atténuée, ni réduite, ni minimisée. Elle est entière. Pour tout acte commis, quelles que soient les circonstances ou les motivations. Pas de circonstances atténuantes. Par contre, des circonstances explicatives, oui, souvent, sans aucun doute, mais pas atténuantes. Je trouve que ce concept est inapproprié. Et j'aime ainsi fréquemment rappeler que Dieu ne minimise jamais nos fautes. Que Dieu ne nous dit jamais « Ah oh non, t'inquiète pas, c'est pas grave, puis t'as des circonstances atténuantes. » Au contraire, je crois qu'il confronte et qu'il nous dit très clairement « C'est grave, c'est grave, mais je te pardonne. » Et là est la véritable grâce. Là est le véritable pardon. Efficace. C'est grave, mais je te pardonne. Et ça change tout. Ça change tout. Minimiser, ça minimise aussi le pardon, je pense. Et peut-être qu'il y a des choses qui restent, du coup. Paul l'a compris, et pour lui, ça a tout changé. N'oublions pas cela, peut-être pour nous-mêmes, que cela nous serve d'exemple à vivre et à suivre aussi vis-à-vis des autres. C'est grave, mais je te pardonne. Je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul n'a jamais oublié son passé. Pas de minimisation non plus de sa part et pas de dissimulation. Il n'a jamais oublié qui il était ni ce qu'il a fait. Mais sa focalisation se veut désormais ailleurs. Sa focalisation se veut désormais ailleurs, comme le souligne le verset suivant. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul n'a jamais oublié son passé, mais surtout il a bien conscience d'à qui il doit son présent. Il a bien conscience d'à qui il doit ce qu'il est devenu. Ailleurs, Paul le dira en d'autres termes, là où le péché a abondé, et c'était le cas dans sa vie, je ne pense pas qu'il y ait grand monde ici qui puisse dire que ce n'était pas le cas dans sa propre vie aussi, Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On l'a chanté dans le dernier chant, différentes facettes de cette grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il a en effet bien conscience de l'immensité de la grâce dont il a bénéficié et de la transformation dont il a bénéficié. Et nul doute, sa reconnaissance en est énorme. Et j'espère que c'est le cas pour nous aussi. J'espère que c'est le cas pour nous aussi. Sans pour autant avoir eu besoin d'être meurtrier par le passé, évidemment. Ouais, mais Paul a quand même dû vouloir se racheter, non ? Ça se voit à l'engagement extrême qu'il a eu par la suite tout le long de sa vie. Ouais, c'est sûr, il a quelque part voulu se racheter de tout le mal qu'il avait pu faire. C'est pour ça qu'il a travaillé plus que les autres. Et c'est d'ailleurs la moindre des choses de sa part. Lui si méchant au départ. On a peut-être parfois un petit raisonnement comme ça qui nous traverse l'esprit, non ? En tout cas, l'Église a, par le passé, mis un peu en avant ce genre de choses, je trouve. La démonstration par une abnégation permanente d'une vraie contrition. L'engagement pénitent pour prouver avoir vraiment compris l'immensité de la grâce reçue. Mais la logique de Dieu n'est pas comme ça. Et donc celle de Paul n'est pas non plus comme ça. Elle est tout autre. Et on la voit dans un autre épisode avec une femme pécheresse à qui Jésus dira « Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. » Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner manifeste que peu d'amour. Plus la dette est immense, plus on réalise, normalement, combien la remise de dette dont on bénéficie est immense. Plus on mesure combien la grâce est immense, plus on mesure la grandeur et la portée de la transformation faite par Dieu dans nos vies. Et plus on le remercie pour cela, plus on l'aime pour cela, et plus on souhaite que les autres vivent la même chose extraordinaire. Ainsi, après sa conversion et pendant tout son ministère, entier comme il a toujours été, Paul n'a effectivement pas ménagé sa peine pour aller partager l'Évangile à travers le monde romain de l'époque. Mais il n'a jamais cherché par cela, consciemment ou inconsciemment, à se racheter. Il a juste aimé Dieu en retour et il a aimé ses contemporains. Grâce de Dieu aussi de lui en avoir donné la force et la possibilité. Ouais, mais Dieu a quand même voulu le punir un peu, non ? Vu tout le mal qu'il avait fait, il fallait bien un peu de souffrance pour lui aussi, non ? On a peut-être parfois aussi un petit raisonnement comme ça qui nous traverse l'esprit. En tout cas, l'Église a également, par le passé, mis un peu en avant ce genre de choses, je trouve. Bien oui ! Seigneur, n'avait-il pas effectivement dit dans sa vision à Ananias ? Ananias, c'est le chrétien que Dieu a envoyé auprès de Paul pour l'aider dans sa démarche de conversion et ses premiers pas dans la foi. Le Seigneur lui a dit à Ananias, « Vas-y, car cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ouais, Dieu pardonne, mais il a aussi prévu un avenir en proportion de son passé. Si on croit que Paul a souffert pendant son ministère parce qu'il a d'abord fait souffrir les autres, c'est qu'on n'a pas encore bien compris l'Évangile et le cœur de Dieu. Dirions-nous aussi que Jésus lui-même a souffert en conséquence ou en proportion de ce qu'il a fait souffrir les autres ? Cela n'aurait vraiment aucun sens. Et Pierre, et Jacques, et Jean, et tous les martyrs, non, ce n'est absolument pas le cas. Pleinement pardonné et déculpabilisé, Paul a juste vécu ce que beaucoup vivent à cause de l'opposition à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Tout simplement. La souffrance pour le nom de Christ fait fréquemment et logiquement partie du chemin du chrétien. C'est une réalité. même si nous en sommes peut-être ici largement exemptés pour le moment. Encore une grâce de Dieu pour nous à ce jour. Paul voit son ministère, aussi difficile qu'il ait pu être parfois, voire souvent, bel et bien comme une grâce du Seigneur, grâce active et abondante. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. J'ai travaillé, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Le souvenir du passé, ne plus emporter la culpabilité. Avec Dieu, c'est possible. Pour Paul qui écrira encore, étant donc justifié en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour Pierre, celui qui a renié Jésus. Et pour les Corinthiens, les débauchés. Pour les Éphésiens, idolâtres. Et pour tant d'autres qui sont en paix avec Dieu. Oui, on comprend bien l'insistance biblique sur le cas des coupables repentants, et en particulier les coupables avant que Dieu ne transforme fondamentalement leur vie en et par Christ. On le comprend d'autant mieux que nous étions nous-mêmes, nous sommes encore peut-être, à l'aune de Dieu, en tout cas tous des coupables ou ex-coupables. Chose merveilleuse que la justification. Chose merveilleuse que le pardon. Et on comprend aussi la logique biblique pour les coupables non repentants, qui refusent l'offre de Dieu et qui du coup n'obtiennent pas son pardon et restent coupables devant lui. Et il y a un certain nombre d'exemples bibliques comme ça aussi. Mais on comprend peut-être moins que la Bible semble peu parler ou peu se placer du côté des victimes quand même. Ainsi, pour terminer, je voudrais encore souligner que, bien évidemment, pardon et culpabilité enlevée ne signifient pas du tout oubli, on l'a évoqué, et ne signifient pas non plus déresponsabilisation. Après sa conversion, Paul a-t-il demandé pardon aux chrétiens de Jérusalem pour le mal qu'il a pu leur faire? A-t-il été trouvé la famille ou les proches d'Étienne, s'il en avait, pour leur demander pardon? Nous n'avons aucune info à ce sujet. Moi, j'aurais bien aimé des fois qu'il y ait ce genre d'informations. Mais encore une fois, dans la logique de ce que je disais tout à l'heure, selon laquelle Paul a vécu pour lui-même ce qu'il a prêché aux autres, et il a prêché la repentance. Il a prêché le pardon les uns envers les autres. Il a encore prêché la réconciliation. Alors je veux croire que, dans la mesure du possible, il l'a fait, même si les textes bibliques ne nous le relatent pas. N'aurait-il pas, à minima, mérité un jugement de la justice humaine pour le mal commis? En sachant que c'était avec l'aval des autorités de l'époque, je ne crois pas qu'il était passible d'un jugement humain, car il n'avait pas enfreint la loi juive, en tout cas pas la compréhension humaine de la loi juive, même si cette compréhension était en opposition à la volonté de Dieu. Mais pardon ne veut pas dire pour autant déresponsabilisation. Et il est clair qu'il y a des conséquences ici-bas à assumer aussi. Ainsi, dans un tout autre registre, il me semble qu'il faut clairement dire que l'Église, au sens d'institution, s'est trompée et a trompé quand elle a pu croire que des faits clairement... Bon, j'ai perdu ma ligne. Hein. Quand des faits légalement répréhensibles... dévoilé sous le sceau de la confession, devait rester secret et permettre au coupable, certes pardonné devant Dieu, si la repentance était sincère, de pouvoir ne pas assumer ses responsabilités. Et c'est aussi valable, c'est sûr, quand on n'est pas légalement répréhensible. L'obligation de réparation reste, me semble-t-il, mais bien sûr, chaque cas peut être différent, avec ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. Mais effectivement, pardonné par Dieu, je pense qu'on devrait pouvoir mieux assumer ses actes sa responsabilité devant les hommes. Pas évident, ça. Aller en prison, si telle est la juste sentence. Également chercher à réparer autant que faire se peut. Se souvenir du passé, ne plus emporter la culpabilité. Alors, il n'y a peut-être plus grand monde parmi vous, mais une prochaine fois, je souhaiterais encore aborder la problématique en considérant quand même plus avant le cas des victimes. On se dirait que les victimes ne sont pas coupables. Et on ne devrait donc pas porter de culpabilité dans ces cas-là, mais nous le savons. Souvent, la personne qui a subi porte aussi le poids du passé, se sentant bien des fois elle-même coupable. Fréquent dans les cas d'abus, de violence, de maltraitance. Plus largement, pour ce qui les concerne, la réflexion pourra plutôt être se souvenir du passé, ne plus emporter le poids, ne plus emporter la souffrance. Mais on le sait, les blessures peuvent faire mal longtemps, très longtemps, trop longtemps. Pourtant, en parlant du passé, de passé douloureux, et il peut être douloureux, à plus d'un titre, Dieu peut guérir. Dieu veut guérir. Et si on reprend l'image de la blessure, et les victimes sont blessées, Dieu seul peut faire adéquatement cicatriser. La trace de la blessure est toujours là, mais elle ne fait plus mal. Et je crois la restauration que Dieu veut et peut faire. Souvenir du passé, ne plus emporter la souffrance. Je crois qu'avec Dieu, c'est possible, même si certainement des fois un long chemin. Comme il le dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Même si c'est dans un autre contexte, ce passage de l'Exode, où il parle plutôt à un Israël coupable, mais Dieu, nous le savons, est l'Éternel qui te guérit. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton pardon. Pardon quand nous étions coupables. Seigneur, merci pour ton pardon quand nous sommes encore coupables. Merci de nous avoir donné ta paix en enlevant notre culpabilité. Et si certains d'entre nous vivent encore avec ce poids, nous voulons maintenant te le déposer, Seigneur. Non pas pouvoir faire comme si de rien n'était, en oubliant ou en cachant, mais parce que tu nous montres la gravité de nos fautes, Seigneur, alors ton pardon est plein et entier et nous pouvons le saisir. Et c'est ça qui sera vraiment restauration, qui sera vraiment guérison, qui sera vraiment transformation. Oui, ta grâce est absolument extraordinaire en ce sens. Merci pour ta guérison quand nous sommes blessés. Aide-nous à te laisser panser nos plaies également et à être au soutien les uns pour les autres quand c'est nécessaire. Seigneur, ton œuvre à la croix n'est pas juste théorique, pas juste pour l'humanité entière. Nous mesurons combien elle est précieuse, indispensable, nécessaire et incomparable pour chacun et chacune d'entre nous, pour moi-même. Et je te remercie pour l'exemple de Paul. On pourrait dire qu'il était tellement pire que nous qu'on ne se sent pas concerné. Tu as fait une œuvre de restauration extraordinaire en lui, tu as fait une œuvre de transformation extraordinaire en lui. Oui, ta grâce a agi. Et nous te remercions pour ta grâce pour chacun et chacune de tes enfants. Nous te remercions pour ta grâce offerte encore à toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci encore pour qui tu es, Seigneur. Ce Dieu qui connaît les vrais problèmes et qui offre les vraies solutions. Oui, nous te rendons gloire et te louons pour cela. En Jésus-Christ. Amen.